Eh bien, bonjour, bienvenue pour cette première rencontre de l'après-midi. Il est 14h, nous allons passer un moment dans le festival Effraction avec Abir Mukherjee, qui est là en compagnie de Morgane Sessana, qui va nous accompagner à la traduction pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Sinon, vous aurez le plaisir de pouvoir l'entendre en version originale. Donc, c'est une rencontre qui va tourner autour du roman policier et de l'histoire, puisque les romans d'Abir Mukherjee, qui sont actuellement en France au nombre de 4, publiés aux éditions Liana Levy, nous emmènent en Inde, à Calcutta, à partir de 1919. Et on va suivre ces histoires à travers les enquêtes du capitaine britannique Sam Wyndham, qui sera épaulé bien sûr par la police locale et notamment Sat Banerjee, qui va construire ses enquêtes avec lui. Je ne vais pas vous en dire tellement plus là-dessus parce que, en tant que lectrice, je déteste qu'on me raconte toute l'histoire. Donc les détails se dévoileront un petit peu sans doute au fur et à mesure de notre discussion. Mais on va commencer peut-être par ce contexte historique et de façon très classique avec une question qu'on a dû vous poser à peu près 150 000 fois, mais j'aimerais quand même qu'on prenne un petit moment pour que vous nous expliquiez comment ce projet est né. Est-ce que c'était l'envie de parler de l'Inde? Est-ce que c'était ce personnage qui est venu frapper dans votre cerveau et qui vous a donné envie d'écrire, puisque je n'ai pas pris le temps de faire votre biographie, mais vous n'avez pas commencé ces livres alors que vous aviez 20 ans. Je crois que l'écriture est arrivée tardivement dans votre vie. Qu'est-ce qui a été... Mince, j'ai fait une bourde. C'est très mal poli.
Non, j'aurais bien aimé, c'est vrai que je fais jeune, donc on a l'impression que j'ai commencé à écrire quand j'avais la vingtaine, mais non.
I just looked like I was in my 20s, right?
En plus, c'est vrai que vous faites très jeune, mais il se trouve que malheureusement, j'ai fait des recherches avant et je sais que vous n'avez pas 20 ans. Donc voilà, quelle a été l'impulsion? Est-ce que c'est aussi un retour aux sources et à l'histoire familiale, puisque vos parents sont nés en Inde? Voilà, comment tout ça s'est amalgamé?
Wow, there's so many questions. So many questions. Firstly, can I just say thank you everyone for coming today in the middle of a strike. It seems the one thing that unites the British and the French is strikes. And I'm so glad that I can, you know, we have this cross, this entente with la grève, oui? Yes. So thank you. Sorry.
Do you want me to
do? Yes, please do.
Donc j'ai déjà, avant de commencer, disons qu'il y a tellement de questions en une là. Et tout d'abord, je voudrais commencer par vous remercier tous pour vous êtes déplacés alors qu'il y a des grèves partout en ce moment en France. Et je crois d'ailleurs que c'est ce qui nous unit, britanniques et français, ces grèves du moment. Donc il y a cette espèce d'entente entre nous et ça me fait très plaisir.
L'entente de grève, oui. Is that right?
L'entente dans la grève.
Dans la grève, ok. How did I start writing and why did I start writing? So my father was born in India. My parents came from India. And my father, when he was about 40, seems to have asked himself, what is the coldest, wettest place I can raise a family? And the answer was Scotland. And so I was born and raised in Scotland.
Alors, qu'est-ce qui m'a amené à l'écriture? Pourquoi? Comment? Alors, déjà, je devrais commencer par expliquer que mon père est né en Inde, mes parents, d'ailleurs tous les deux. Et à l'âge de 40 ans environ, mon père s'est demandé quel est l'endroit le plus froid, l'endroit où il pleut le plus, où je pourrais élever, fonder une famille. Et la réponse, évidemment, ça a été l'Écosse. Ce qui explique pourquoi moi, je suis né et j'ai grandi en Écosse.
So I grew up in Britain, and I would imagine it's a similar thing in France. In Britain, we don't tend to talk about our history. We and the Americans are probably the best at whitewashing our history. You know, British history has a few dates. It has 1066, when a bunch of no good French people turned up, and then 1966, when England won the World Cup. And they don't. We don't really dwell on anything in the middle.
Oui, alors, bon, donc moi, j'ai grandi en Grande-Bretagne. Et je crois que c'est un petit peu la même chose en France, en fait. En Grande-Bretagne, on est assez fort, justement, pour un petit peu... On n'est pas très doué en histoire, en fait. On s'auto-inflige un peu une sorte de lavage de cerveau pour tout ce qui est histoire. Je crois qu'en tout cas, nous, les Britanniques et les Américains, on est très forts pour ça, pour cette sorte d'amnésie. Les Britanniques, en fait, ils n'ont pas beaucoup de dates marquantes dans leur histoire. Il y en a deux. Il y a 1066, évidemment, la bataille de Hastings. Donc, quand une troupe de Français vraiment mal intentionnés ont débarqué chez nous. Et puis, à 1966, quand le Royaume-Uni a gagné la Coupe du Monde. Et entre-temps, il ne s'est pas passé grand-chose dans notre histoire.
So, we don't talk about much in the middle. In fact, I learned more about German history, Russian history in the 20th century than I did about British history. But we talk about some things, and our history is very much one-sided. So I would go to school and I would learn something, and I would come home and I would tell my father, today I learned this. And my father would sit there and go, very good, very good, it's wrong. And he would tell me a different history, a different side to history. And very quickly, I found out that half the time the school was wrong, but half the time he was wrong. And the truth was somewhere in the middle.
Oui, donc il ne s'est pas passé grand-chose entre-temps, entre 1066 et 1966. Et donc moi, j'ai beaucoup plus appris, par exemple, de dates où j'ai beaucoup plus appris sur l'histoire allemande ou l'histoire russe contemporaine du XXe siècle que sur l'histoire britannique. Évidemment, on apprenait des choses à l'école sur notre histoire, mais c'était toujours très unilatéral. Et donc parfois, à l'école, j'apprenais des faits historiques, je rentrais à la maison et je m'empressais de dire à mon père j'ai appris ci, j'ai appris ça, il s'est passé ça telle année dans notre pays. Et mon père me disait very good, très très bien, très très bien, mais non, c'est faux. Et il me racontait, lui, sa propre version de l'histoire. Et je me suis rendu compte qu'une fois sur deux, ce que j'avais appris à l'école était vrai, se vérifiait, et donc une fois sur deux, évidemment, ce que racontait mon père était faux.
I'm very upset that you didn't try to do my father's accent.
I did.
You do. It's very good. Okay. But it's très bon, très bien. Okay, that was good. So why did I write the books? Because growing up in Britain, I realized it was a search for my own identity. I am British, but like any minority, I think from an early age, you realize that what you are taught is not necessarily the truth. In Britain or in India, if I went to India, the history books paint the British as méchant. Is that the right word? Yeah. I don't know what the English word is, but the French word is méchant, right? And but I know, and you all know, that the British people can't plan anything, right? The idea that the British decided that they were going to take over a whole country when we can't organize, you know, petrol is a myth, right? It happened by chance, it happened by accident, and it happened because Indians were involved in that. So I wanted to write my truth. I wanted to write the truth of that period. And the truth, I think, you get to when you look at individuals. And I wanted to kill some people in some books as well. The best way to discuss history is by killing people.
Okay. Alors, bah, je suis vraiment je suis déçue là, que l'interprète n'ait même pas essayé de transcrire l'accent indien de mon père. Là. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit ces romans, cette série? Eh bien, je crois qu'en fait, c'était, y avait une idée, une envie, une sorte de quête d'identité, une quête identitaire. Vous savez que je suis britannique, évidemment, mais je fais quand même partie d'une minorité au sein du Royaume-Uni. Et quand vous faites partie d'une minorité comme ça, ce qu'on vous apprend sur vous, par exemple, et sur le pays dans lequel vous vivez, n'est pas toujours la vérité. Par exemple, en Inde, dans les livres, les manuels d'histoire, on vous apprend toujours que les Britanniques sont très, très méchants. Et vous savez, très bien, vous, comme moi, nous savons que les Britanniques, ils sont incapables de planifier quoi que ce soit, d'avoir, une vision sur le long terme.
We have no vegetables at the moment, so I'm going to go shopping after this, because we haven't got any.
Oh, really? Yeah.
It's getting better.
Oui, donc par exemple, je disais que les Britanniques sont complètement désorganisés, ils ne savent rien planifier à l'avance. Et par exemple, en ce moment-là, eh bien, il n'y a plus de légumes au Royaume-Uni. Donc là, tout à l'heure, je vais aller en acheter ici pour en ramener à la maison. Et donc, je reviens à cette histoire des Britanniques et de leur histoire commune avec l'Inde. Il ne faut pas croire que les Britanniques avaient prévu et planifié très précisément d'annexer tant de pays et de créer cet empire-là. Quand on voit que les Britanniques ne sont même pas capables de gérer leur propre production et distribution d'essence,
Et les pommes de terre.
Ni de légumes, ni de pommes de terre, d'ailleurs. Donc en fait... Si l'Empire britannique a pu devenir ce qu'il était, et si la présence britannique a été ce qu'elle était en Inde, c'est aussi, ça s'est passé de manière un peu fortuite, et c'est aussi grâce aux Indiens, en fait, grâce à l'implication des Indiens dans cette histoire. Et donc, moi, j'ai eu envie d'écrire ma propre version, ma propre vérité sur cette histoire, sur ces faits-là. Et puis, évidemment, aussi, j'avais aussi envie de tuer des gens grâce à ma plume. Parce que je pense que le meilleur moyen de découvrir l'histoire, c'est aussi de tuer des gens.
Ce qui peut d'ailleurs nous permettre de parler quand même un petit peu au passage du genre littéraire dans lequel vous vous inscrivez, puisqu'on est dans du roman policier. On a vraiment un mélange assez riche dans votre univers, à la fois d'enquêtes très classiques, selon les tomes, on est parfois un peu proche d'Agatha Christie, d'autres du roman noir américain, du meurtre en chambre close. Toutes ces influences-là se mélangent avec des personnages qui sont aussi des archétypes. Hein. Le flic dans notre imaginaire, bah, il est alors solitaire ou en duo. Il y a des célèbres duos dans le polar. Là, on a plutôt un duo. Il est souvent traumatisé par quelque chose. Alors là, on est juste après la Première Guerre mondiale. Le personnage de Polar a souvent une addiction, l'alcool, la drogue. Bon, il se trouve que Windham est opiomane. Voilà, c'est un personnage qui est marqué à plein de niveaux. On le découvre de livre en livre. Donc justement, vous vouliez tuer des gens. C'était ça qui allait marquer le genre littéraire, ou c'est aussi votre goût personnel qui fait que ce choix-là s'est fait?
Well, there's always satisfaction to be had by killing English people, I should point out. Okay, so there's always that satisfaction. When we talk about crime fiction, you are right, I grew up and I fell in love with crime fiction in all its forms. The English country house Agatha Christie mystery, the American hard-boiled detectives, you know, Raymond Chandler. But I grew up in Scotland, and I grew up mainly with what we now call tartan noir. And the thing about tartan noir is it was started by people like William McIlvany, Val McDermid, Ian Rankin, where you use the crime novel as a vehicle to discuss social issues, social wrongs. And I grew up in that tradition. And so when it came to writing, for me, it felt natural. If I want to shout, I write because I'm angry. And if I'm angry and I want to write about it, it's my therapy. And to get that anger out, it made sense to write crime novels for me.
Alors, de toute façon, tuer des Anglais, c'est toujours une énorme satisfaction. Ça, c'est un fait indéniable. Et vous avez tout à fait raison quand vous parlez de romans policiers et de l'importance qu'ils ont eu pour moi. Parce que quand j'étais enfant, je suis vraiment tombée amoureuse avec ce genre que je lisais beaucoup. Je lisais Agatha Christie, par exemple. J'ai toujours cette image de la vieille maison de campagne un peu sinistre dans les romans d'Agatha Christie. C'est quelque chose de très marquant pour moi. J'ai aussi été beaucoup influencée par le roman noir américain, Raymond Chandler, par exemple. Mais le problème, c'est que moi, j'ai grandi en Écosse, et donc, évidemment, j'étais plutôt identifiée et puis influencée aussi par ce qu'on appelle le tartan noir. Donc, c'est comme ça qu'on appelle les romans policiers écossais. Et des romans, bien qui ont été un genre qui a été, propulsé, si on peut dire, par William McIvaney ou McDermott ou Rankin, c'est ça, des écrivains qui se servaient du roman noir pour aborder des problèmes sociaux de société. Et donc moi j'ai grandi au sein de cette tradition-là de polar. Donc bien sûr c'est ce que je reproduis. Et puis moi j'écris aussi parce que je suis en colère. Et écrire, extérioriser cette colère-là, moi c'est quelque chose de thérapeutique. Faire ça... évacuer ma colère en écrivant des romans policiers, je crois que c'est ce qui donne du sens en fait à mon écriture.
Je voudrais qu'on prenne un exemple en partant du premier tome donc des enquêtes de Windham, qui est l'attaque du Calcutta d'Arjeeling, puisque dans ce livre-là est mentionné le 9 avril 1919, qui est la date du massacre d'Amritsar. Commis par le général Dyer. Alors, moi, je l'ai découvert en vous le lisant. Je savais qu'il y avait eu des massacres, mais là, on a un exemple très précis. C'est un massacre qui fait 379 morts, a priori, plusieurs centaines de blessés, voilà, qui, quand même, a un certain retentissement. En prenant l'exemple de ce massacre-là, voilà, pourquoi cet événement-là? Et est-ce que ça marque pour vous le démarrage de tout ce que vous voulez raconter pour arriver à l'indépendance en 1947 ? Comment vous avez choisi justement la période à laquelle vous alliez démarrer ces histoires ?
To answer the first question, the 9th of April 1919, the Amritsar massacre was a watershed in Indian history. Up until that point, the Indian independence movement was looking for dominion status in the same way that Australia or New Zealand or Canada is a dominion. The Indian freedom movement was looking for dominion status. With that massacre, the Indians realized that the British would never treat them as equals. It would never, what happened was, there was a general strike and people were not allowed to congregate. So the British fought the First World War in the name of freedom and then stopped meetings of more than five people in India, you know, or two people. You could not congregate. 400, 500, 1,000 people congregated in this square and they were shot. The British brought in rifles, told them to leave and then shot them. Then hundreds died.
Alors c'est vrai que cette date du 9 avril 1919, en fait ça a marqué vraiment un grand tournant dans l'histoire de l'indépendance de l'Inde. Parce qu'avant cela, avant ce massacre-là, le mouvement d'indépendance de l'Inde, en tout cas les velléités d'indépendance des Indiens, en fait n'allaient pas plus loin que la revendication d'obtenir un statut de dominion. Un peu comme l'Australie, par exemple. Mais après ce massacre, les Indiens se sont rendus compte que de toute façon, les Britanniques ne les traiteraient jamais comme leurs égaux et qu'il fallait sans doute aller plus loin dans les revendications. Et à cette période-là, Il y a eu des grèves, une grève générale en Inde, et les Indiens avaient interdiction formelle, donc évidemment donnée par les Britanniques, de se réunir et donc évidemment de manifester, etc. Il y avait une loi qui interdisait les réunions de plus de 4 ou 5 personnes. Et un jour, 400 à 500 Indiens se sont réunis sur une place, alors que donc, malgré l'interdiction, et les Anglais ont ouvert le feu sur eux et ils ont été très nombreux à voilà, il y a eu beaucoup de morts.
And so that marked the beginning of the next phase of the Indian independence movement. From that point on, there was no talk of dominion status within the British Empire. It was about independence. So for me, that seemed like the correct point to start my novel, my series. Also, my main character, Sam Wyndham, he is a survivor of the First World War. He arrives in India, he's lost his wife, he's lost his friends, he has what we call PTSD today, and he arrives in India because it's slightly preferable to suicide. So for me, 1919 was the right place to start my series. And I'll come on to why I wanted to write this series, but I want to write all the way from 1919 to 1947, which is Indian independence. And as you say, so far I've only written 4 books, so we're only at 1922. So we have 25 years to go. And I don't know if you know this, but you know, I come from Glasgow, and we have the lowest life expectancy in Western Europe. So, you know, I'm on borrowed time already, so who knows how many books we'll get to.
Et donc, le 9 avril 1919, ça marque le début de cette nouvelle étape, cette nouvelle phase dans l'indépendance, le mouvement pour l'indépendance de l'Inde, où on commence à vraiment parler d'obtenir l'indépendance et pas seulement... de devenir un dominion, comme je disais. Et c'est pour ça que ça m'a semblé être le moment, le bon moment pour démarrer ma série. Et donc, de plus, mon protagoniste, le capitaine Wyndham, c'est un rescapé de la Première Guerre mondiale qui, donc après la guerre mondiale, arrive en Inde, il perd sa femme, qui décède, il a perdu énormément d'amis pendant la guerre et il est très mal en point, il souffre de troubles post-traumatiques, hein, c'est évidemment un nom qu'on ne donnait pas à l'époque, là c'est un peu anachronique, c'est on l'appelle ça comme ça maintenant. Et donc, il a des pensées suicidaires. Enfin, il est à l'étape juste avant le suicide. Hein. Et donc, moi, justement, cette année 1919, c'était le moment, le bon moment pour moi pour commencer ma série. Et donc, mon intention avec ma série, c'est donc, après avoir choisi de commencer en 1919, c'est d'amener mon lecteur jusqu'à l'indépendance de l'Inde, donc en 1947. Donc pour l'instant, j'ai écrit que 4 livres. On est rendu en 1922 avec Le Soleil Rouge de l'Assam. Il y a encore 25 années à couvrir avant d'arriver en 1947. Et alors, je ne sais pas si vous savez, donc moi, je suis de Glasgow, et la ville qui a... on a l'espérance de vie la plus basse de toute l'Europe de l'Ouest. Donc, je suis déjà un petit peu... il y a déjà le tic-tac, tic-tac, j'ai déjà un pied dans la tombe, donc je ne sais pas si je vais réussir à mener à bien ma mission.
Je voudrais juste vous lire un tout petit passage à propos de Wyndham. Donc, on le découvre... homme adulte dans l'attaque du Calcutta Darjeeling, et dans le tout dernier, on revient un petit peu plus précisément sur d'autres éléments de la jeunesse de Wyndham, et notamment 1905 à Londres, avec ses premières enquêtes. Et voilà comment lui-même se décrit. Toute ma vie, j'étais un outsider, certainement depuis le jour où ma mère est morte et où mon père m'a expédié au pensionnat. Je n'ai jamais compris ce qui conduit le fort à opprimer le faible, ni le besoin que beaucoup éprouvent de harceler ceux qui sont différents d'eux. C'était peut-être seulement plus facile, reprocher à quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent, toutes les merdes qui vous tombaient dessus. Alors qu'à l'évidence, les ennuis sont le plus souvent provoqués par des gens qui vous ressemblent et non par ceux qui sont différents. Peut-être était-ce pour cela que j'avais toujours été du côté du perdant. Certains me qualifiaient d'opposant, je me trouvais simplement correct. Je jugeais donc écœurant qu'Arnsworth puisse vouloir faire de moi un complice pour répandre ses demi-vérités et ses informations déformées. Là, on va rentrer dans l'enquête. Mais c'est un des éléments que je trouve très intéressant dans vos romans, c'est justement la personnalité de Windham. C'est ce qui est, j'imagine, le plus difficile à réussir quand on écrit, de ne pas faire des personnages absolument positifs. Il y a bien sûr ces traumatismes, mais il a aussi moralement des positions qui ne sont pas si claires. Il est bien sûr pris par plusieurs aspects. Il est policier, il a l'ordre et la loi à faire respecter, mais il a aussi ce côté humaniste. Comment vous avez conçu toute cette personnalité qui amène vraiment une grande richesse à vos textes?
That's a great question. The fact is, Windham is part of me. He is one side of me, and Sat Banerjee is the other side. Windham is my more pessimistic, maybe my more Anglo-Saxon, my older side, whereas Sat is my younger, more optimistic, more forward-looking side. It's funny you should say that about good characters. Because as I say, Windham is basically me. Whenever I write a Windham novel, the first draft, which goes to my editor, I've had four editors, the first draft always comes back and says, can you make Windham less of an arsehole? And I say, it's me. But so apparently, you know, I'm the problem. I think that for me, the characters have to be complex because as I say, it's therapy for me. I am working out my own issues with, you know, using these two men as the front. And when Windham says he's an outsider, I am an outsider. I grew up in a society in which I didn't fit completely. Part of me fits, part of me doesn't. My son is here, I should say, and he wants to steal the Mona Lisa later, so that's after this. But his life, his first 8 years, have been very different to mine. I would hope he's not an outsider, whereas I don't fit in anywhere. My roots are very shallow. You have to help us steal the Mona Lisa after this, okay? It's just down there.
C'est une très 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 bonne question. Windham, en fait, eh bien, il représente une part de moi. Je dirais que Windham et Sat Banerjee sont tous les deux, eh bien, représentent chacun, voilà, un côté de ma personnalité. Windham, eh bien, c'est le côté le plus sombre, pessimiste, peut-être le côté le plus anglo-saxon, le côté un peu plus vieux. Alors que Sat Banerjee, c'est le côté plus optimiste, le côté un petit peu plus frais, plus jeune chez moi, et le côté un peu plus, qui a un petit peu plus envie d'aller de l'avant. Et donc, bon, comme je disais, pour dire les choses clairement, Windham, c'est moi, une partie de moi. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois que j'envoie à mes éditeurs mon premier jet, pour chacun des romans de la série, là, j'envoie mon premier jet, et à chaque fois, la première action, première chose qu'on me dit, c'est « Est-ce que tu pourrais t'arranger pour que Windham soit un peu moins... un connard ?» Et je leur dis « Mais attendez, mais Windham, c'est moi !» Et donc, oui, je pense que les personnages doivent de toute façon être complexes. Et comme je le disais tout à l'heure, écrire, c'est thérapeutique pour moi. Et donc, donner cette complexité, explorer la personnalité de mes personnages à ce point-là, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et donc, avoir ces deux hommes, ces deux personnages, ça montre toute l'ambivalence de mon personnage à moi. Et donc, comme vous le rappeliez dans l'extrait que vous venez de lire, Windham se sent toujours un petit peu un outsider. Il se sent un petit peu à côté de la plaque, un peu exclu de la société dans laquelle il vit. Et ça, c'est moi. Moi, j'ai jamais vraiment trouvé ma place ou pas tout à fait en Écosse, en tout cas au Royaume-Uni. Et mon fils est là. Il est ici. Juste pour la petite histoire, il veut voler la Joconde tout à l'heure au Louvre, donc il n'est peut-être pas tout à fait net non plus, mais je vois que sa vie à lui a été... Ah oui, il ne faut pas trop le dire. Ouais. Et donc sa vie, pour l'instant, ces 8 années là, qu'il a passées sur Terre et au Royaume-Uni sont quand même très différentes de ma vie à moi à l'époque. Et j'espère justement que lui, voilà, vivra... les choses différemment. Mais moi, voilà, c'est ça, je reste quelqu'un d'un petit peu à la marge. Mes racines sont quand même pas très, très... Enfin, je suis pas enracinée très profondément où que ce soit.
On le sait très souvent quand on lit des romans historiques. Bien entendu, ça nous parle du passé, mais c'est un passé qui renvoie très souvent au présent. Il n'y a rien de tel qu'une mise en perspective pour voir les choses, pour voir nos travers et se demander si on a évolué dans le bon sens ou pas. C'est très net dans certains passages du Soleil Rouge de la Sam. Je pense à une description de Londres qui dure 2 pages, je ne vais pas vous la lire et puis comme ça vous la découvrirez, mais avec cette comparaison Londres et Calcutta, et on a Windham qui se promène dans les rues avec le sergent Whitlow, je crois, et lui commente tout ce qu'il voit, et il y a ce racisme qui imprègne le personnage avec... C'est dit très très clairement, hein, avec toutes les populations qui se mélangent, mais quand même ceux qui dérangent le plus, parce que bon, les Chinois avaient un aspect, un comportement tellement différent qu'il a été admis qu'ils ne faisaient rien comme tout le monde, tandis qu'un Juif en costume et chemise propre pouvait passer pour un Anglais, et c'était peut-être ce que les gens trouvaient impardonnable. Donc là, on voit bien que la question, c'est plus les Juifs et la question de l'immigration. Pour vous, c'était très net que ce passé vous permettait de parler d'aujourd'hui, ou finalement c'est juste ça surgit à la marge de votre projet?
No. That's a great question. For me and for many writers, writing about the past is just a mirror. It's just a mirror that we hold up to what is happening now. And I wrote this book after the British people decided to punch themselves in the face continuously, otherwise known as Brexit. But it's a very British reaction to an issue. And this is where... And I was trying to make sense of Brexit. I was trying to make sense of this outpouring of hostility towards people who are different, towards migrants, towards minorities, because, you know, that is not the Britain that I know, and it's not the Britain I love. There are two Britons. I mean, you may have noticed that our Prime Minister looks a bit like me now, right? That says something about Britain. If you go to the center of our democracy, if you go to Parliament Square in London, you will see a statue of Winston Churchill. On the other side, same square, you will see a statue to Mahatma Gandhi. The man who kicked the British out of India has his statue at the center of our democracy. That says something about the British people. You show me, after this, we're going to go around, you can show me the statue to Ho Chi Minh and the statue to Ben Bella. I want to see them, okay? The fact is, Britain has this strange relationship. We can be very open, we can be very tolerant, and when we are at our best, we are tolerant. And so I wanted to highlight the Britain that my father came to, the Britain that there was racism. My father faced terrible racism, but he was given opportunities in Britain that he never had in his own country. Me, I grew up in a 99% white environment. But as the son of Indian immigrants, I have better life opportunities than the white working class boys who grew up 5 miles away. I wanted to make sense of these things, and I wanted to talk about that in this book. Sorry, that's a very long answer. Morgan, I've given you so much work here.
No,
I'm sorry.
That's my job. C'est une très très bonne question à nouveau. Alors je crois que pour moi, Et puis pour de très nombreux écrivains, le passé, on le brandit comme un miroir. Et donc moi, j'ai commencé à écrire ces livres, enfin en tout cas le dernier de la série, juste après que les Britanniques aient décidé de s'auto-flageller et de se donner des coups de poing continuellement. Donc c'est une façon de décrire ce qu'on appelle le Brexit. Le Brexit, c'est une façon, comment dire, une réaction aux choses qui est très très britannique, façon de réagir très britannique. Et moi, j'ai essayé justement par l'écriture, de comprendre en fait ce qui s'était passé, pourquoi ce grand déferlement d'hostilité envers les personnes qui sont différentes du britannique de souche, entre guillemets, cette hostilité envers les migrants, envers toutes les personnes issues des minorités, parce que cette image-là de l'esprit britannique, c'est pas celui que j'aime, c'est pas celui que j'ai envie de voir mis en avant. Et donc je crois qu'il y a deux facettes vraiment de l'esprit, de l'état d'esprit britannique. Je pense que certains d'entre vous ont remarqué que notre premier ministre britannique, il me ressemble un petit peu là.
I'm better looking, right?
Je suis plus beau, bien sûr. Hein, mais ça me... Et donc, si vous allez vraiment au cœur de nos institutions britanniques, c'est-à-dire à Parliament Square à Londres, vous avez d'un côté la statue de Winston Churchill. Et de l'autre côté de la place, vous avez la statue de Mahatma Gandhi. Donc Mahatma Gandhi, quand même, l'homme qui a viré à coups de pied au cul les Britanniques d'Inde. Et donc c'est ça aussi l'esprit britannique. Est-ce que ici, en France, vous avez des statues d'Ho Chi Minh ou de Ben Bella, comme ça, dans des lieux aussi, dans des institutions, des lieux aussi représentatifs des institutions? Non, je ne crois pas. Donc il y a quelque chose d'assez étrange dans une sorte de dualité de l'esprit britannique. Et l'esprit britannique peut aussi être synonyme d'une très grande ouverture et d'une très grande tolérance quand il est au mieux. Et donc moi, j'ai eu envie justement à travers mon écriture, de mettre en avant et de rendre hommage à cette Grande-Bretagne-là que mon père, lui, était venu chercher, la Grande-Bretagne qu'il avait d'ailleurs trouvée quand il est arrivé au Royaume-Uni. Certes, il y avait énormément de racisme, mais il y avait aussi beaucoup d'opportunités que lui n'aurait jamais pu avoir dans son propre pays. Et donc moi, j'ai grandi dans un environnement où il y avait 99% de la population qui était blanche. What did you say? Oui, mais j'ai eu énormément... Alors que moi, je n'étais pas blanc, mais j'ai eu accès à beaucoup d'opportunités, des opportunités que des jeunes garçons blancs qui faisaient partie de la classe ouvrière, qui habitaient à 5 à 10 kilomètres de chez moi, eux, n'avaient pas.
I'm here talking to you today because of British tolerance.
Et si je suis là, en face de vous, à pouvoir vous parler, c'est grâce à la tolérance, justement, des Britanniques.
Juste pour rebondir sur le Premier ministre, je me suis posé la question, justement, je suis allée voir sa fiche Wikipédia, et visiblement, au moins du côté de sa maman, il est originaire du Punjab, qui est la région dont on a parlé. Non, c'est pas ça ?
Somebody else's Wikipedia page.
C'était celle de quelqu'un d'autre ?
My mother is Bengal.
Non, celle du Premier ministre.
Ah, the Prime Minister, sorry.
Oh. De Rishi Sunak. Voilà. Et donc, du côté de sa maman, il serait originaire du Punjab, donc la région dont on parlait tout à l'heure avec ce massacre commis par le général Dyer. Bon, c'était juste pour boucler la boucle. Vous parliez d'esprit britannique. J'aimerais qu'on parle d'humour aussi, parce que on parle de choses assez sérieuses, mais une des caractéristiques quand même qu'il y a en vous lisant, c'est qu'on s'amuse au milieu de tous ces sujets sérieux. C'est un reflet de votre caractère, là encore. Windham et Banerjee, c'est un peu vous. L'humour, c'est un peu vous. Ou c'est de la légèreté à amener au milieu de tout ce sérieux?
I think you got to remember where I grew up. I grew up in a climate where it rains 360 days a year. And it's dark a lot of the time. The only way you get through that is by laughing, you know? Laughing and whiskey, right? That's how you survive in Scotland. So when you say British humour, it is British humour. But there's also a black humour in there, which is very much Scottish. It's very Scottish, but it's also very working class and hard. I think hard cities, hard places, tend to have humour. So I would imagine, you know, I've been to Calcutta. Calcutta is a hard city. It has humor. People use humor to make sense of their lives. I would imagine Marseille is similar. The East End of London has a sense of humor. Obviously, you're all too posh in Paris, I'm imagining, to have a sense of humor. Is that right?
Alors, il faut pas oublier d'où je viens. Moi, je viens d'un endroit où il pleut 360 jours par an, un endroit où il fait sombre, il fait gris. Et donc, en fait, votre seul moyen de survie, bah, c'est le rire et le whisky, bien sûr. Donc, vous parlez d'humour britannique, et c'est vrai qu'il y en a, mais il y a aussi cet humour noir qui est vraiment très écossais dans mes romans. Un humour très écossais et très prolétaire, je dirais. Et moi, je pense que les endroits où il ne fait pas forcément bon vivre, les villes, les pays où il ne fait pas forcément de bon vivre, eh bien, c'est des endroits où il y a de l'humour. Par exemple, à Calcutta, qui est une ville où, voilà, les conditions de vie sont assez terribles, les gens ont beaucoup d'humour, parce que l'humour leur permet de donner un sens, enfin d'essayer de comprendre leur existence. Je crois que dans le quartier du East End à Londres, ou par exemple à Marseille en France, j'imagine, les gens doivent avoir beaucoup d'humour. Bon, ici à Paris, vous êtes un petit peu trop snob, trop chic pour avoir de l'humour, non?
I have found in Lyon that wow. They use their sense of humor in their cuisine. They made me eat, oh my goodness, pig's ears. Oh, so yeah, there you are.
Alors, j'ai découvert qu'à Lyon, le sens de l'humour, eh bien, ils l'injectaient même dans leur cuisine. En fait, ils sont allés jusqu'à me faire manger des oreilles de cochon, oh, des choses man. Horribles comme ça. Oh. Yeah.
Welcome to Lyon, that's what they said.
Bienvenue à Lyon.
On ne va pas commencer à parler cuisine parce que là, pour le coup, on pourrait rentrer dans un certain nombre de clichés. Okay. Je voudrais qu'on parle un petit peu de cette matière, justement, que vous puisez dans le réel, puisqu'on est vraiment au cœur de la thématique aussi du Festival Effraction. Vous mêlez le réel et la fiction. Donc ma question, elle est un petit peu double. C'est comment vous travaillez ça, cette matière qui est à la fois aussi dans les couleurs, les odeurs. Enfin, on vous lit, il y a un univers qui est vraiment très vivant. On est à Calcutta et dans différentes parties de l'Inde. Donc déjà, est-ce que vous y êtes allé? J'imagine qu'il y a une partie de documentation écrite également. Donc, et est-ce que vous vous sentez tenu justement aussi au réalisme? Si vous avez un trou de mémoire sur ma triple question, je vous la rappellerai.
Well, I'm very lucky in that Calcutta is a city that assaults all of your senses at once. So there is a lot to play with there. I've been going to Calcutta since I was a child. Both of my parents are from Calcutta in Bengal, and Calcutta and Bengal, you said Rishi Sunak's parents are from the Punjab. Bengal is on the other side of the country, and we like to think of ourselves as the intellectuals, the artists, the philosophers. We're the French of India, right? We are the French. But you know that the links between Bengal and France go back. You know, Molière was translated into Bengali before he was translated into English. Calcutta, you know, Romain Rolland, he is worshipped in Calcutta. He's buried there, the French philosopher. The ties go back. Even our word for bread, pain rôti, is pain rôti. It comes from the French. So the ties between Bengal and France date back as far as the British, before the British, in fact. It's a quirk of history that certain battles went one way instead of the other. Otherwise, you know, it may have been very different. But Calcutta is a very special place. It is a place of art and literature. It's a place where people pretend to do their day job and then stop work at 3 o'clock to go and write really bad poetry or do theater. It's a wonderful place, and you know, there's nowhere like it. And I'm very lucky that I can experience it.
Alors, ben, j'ai vraiment beaucoup de chance parce qu'en fait, la ville de Calcutta, c'est une ville qui assaillit vos cinq sens comme ça, tous à la fois. Et donc, j'avais beaucoup de matière justement pour jouer et pour m'amuser avec tout ce que j'avais pu ressentir lors de mes visites à Calcutta. Et c'est une ville que je connais beaucoup parce que depuis que je suis enfant, j'y vais régulièrement puisque mes deux parents sont originaires de Calcutta, donc, qui est dans l'état du Bengale. Et vous parliez tout à l'heure de Rishi Sunak, notre premier ministre, qui lui vient de l'autre côté du pays, qui vient du Punjab. Et nous, en fait, à Calcutta, on est un petit peu les Français de l'Inde, si vous voulez, parce que Calcutta, c'est vraiment une ville de culture, une ville d'intellectuels, en un sens. Bon, certains d'entre vous rigolent, mais le lien entre le Bengale et la France est très, très fort, et ceci depuis très longtemps. Par exemple, Molière, il a été traduit en bengali, avant d'être traduit en français, en anglais, pardon, évidemment, il n'y a pas besoin d'être traduit en français. Dans le même ordre d'idées, le philosophe Romain Rolland, les gens à Calcutta lui vouent un culte, il y est même enterré. Pareil, le mot qu'on emploie pour parler du pain en Inde, il vient du mot pain rôti, c'est ça ? Pain rôti. Donc en fait, il y avait un lien très très fort entre le Bengale et certaines parties de l'Inde et la France. Ensuite, ce sont les Britanniques qui sont venus, qui se sont imposés. Mais et ça, c'est peut-être une sorte de petite bizarrerie de l'histoire. Mais on peut se demander ce qui se serait passé si justement ce lien avec la France s'était un petit peu approfondi ou propagé. Donc Calcutta, c'est une ville très à part, particulière, une ville d'art, de littérature. Et j'aime à dire que c'est une ville où les gens font semblant d'aller au boulot jusqu'à à peu près 15 heures. Et puis après, ils se mettent tous à écrire de la poésie un petit peu douteuse ou à faire du théâtre, à s'amuser, quoi.
Donc, je voudrais qu'on revienne sur cette partie documentée, on va dire, qui renvoie au réel, les faits. L'histoire du pays, les forces en présence, puisqu'il y a les militaires, il y a le mouvement pacifiste, les indépendantistes, les services de renseignement britanniques. On n'improvise pas non plus de tels sujets. Donc il y a un respect vis-à-vis du réel auquel vous vous êtes senti tenu.
I make a point of never changing history. I will never save JFK. I'll never jump in his way. I think what I love to do is play in the spaces between recorded history. So history is painted in broad brush strokes. It leaves gaps, and it's those gaps where I think as a novelist you can play. You can put your characters into history to enlighten what happened. But also, I like to take credit for things as well. If my characters were involved, that's always nice. I will not delineate from history, but I will play in the spaces.
Alors moi, je mets un point d'honneur à ne jamais modifier les faits historiques. Par exemple, je ne vais pas dans mes romans aller sauver John Fitzgerald Kennedy. Je ne vais pas sauter sur son convoi présidentiel pour le sauver. Mais moi, ce que j'aime, c'est jouer un petit peu dans les interstices qu'offre la version officielle, les archives historiques officielles. Parce que cette histoire officielle, elle est dessinée, elle est dépeinte à grands coups de pinceau, et qui vous laisse justement beaucoup de petites brèches. Et moi, ce que j'aime, c'est y insérer mes personnages. Et puis, c'est vrai que j'aime bien aussi, de temps en temps, quand même, un petit peu me faire mousser, si je puis dire. Si mes personnages ont pu avoir un rôle quelconque dans la grande histoire, c'est agréable aussi. Donc voilà, je bifurque pas, je respecte les faits historiques, mais j'aime m'amuser avec ces faits.
Je crois que vous le disiez tout à l'heure, ou je ne sais plus si je l'ai lu quelque part, mais vous aimez l'histoire, justement, avec un grand H, les faits historiques. Vous écrivez de la fiction. Je vais vous poser un petit peu l'éternelle question, justement, du pouvoir du roman. Est-ce qu'il touche pour vous plus de personnes? Est-ce que le fait de raconter tous ces événements par le biais de l'histoire, c'est toucher un plus grand nombre de lecteurs, ou est-ce que c'est une forme qui vous parle plus?
It's a combination of factors. When I started writing, I was writing about things that British people have swept under the carpet. You are telling people something they don't want to hear. You know, this is all recorded history. You know, Amritsar is recorded history. The Bengal famine of 1943, where 3 million people starved to death in a man-made famine, which was Winston Churchill's fault. This is all recorded history. British people don't know about it, French people don't know about it. Because we don't like talking about things that show us in a bad light. We don't like having our history questioned. Even though it's not us, it was our ancestors, we don't like it if somebody says, you know what, your ancestors were not as good as they claimed to be. If you want to tell somebody a difficult story, if you want to tell somebody a difficult history, the best way to do it is wrapping it in a story. If you give them a reason to turn those pages, then maybe you can get your message across. And I think that is much more useful than hitting someone over the head and saying, you are wrong, your history is fake. It's much better to take your audience with you. And in a way, that is Gandhian. That is what Mahatma Gandhi did. He appealed to the better nature of the British. He was appealing to the people that were oppressing him. And he said, look, you know, you're not my enemy. I could treat you as my enemy, but I want to treat you as my friend. And I think there's a parallel there. You can hit someone with history, or you can slip the history in by giving them a story and giving them characters that they can relate to. I think that's a much better way of doing it than judging people or hitting them with history. Because the truth is, history is checkered. You know, whatever I say, there will be another voice that can contradict me. So it is better this way. And more sales, yeah, obviously.
Sorry?
And more sales, people read crime.
Okay. Alors, en fait, c'est une combinaison d'un ensemble de facteurs. Et moi, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit que j'allais parler de ces choses que les Britanniques avaient mis sous le tapis, les choses qu'ils n'avaient pas envie d'entendre. Ces événements historiques comme le massacre d'Amritsar ou la famine au Bengale en 1933, il y a quand même eu, je crois, 3 millions de personnes qui ont fini par en mourir, et c'était une famine orchestrée par l'homme, par Churchill d'ailleurs notamment. Tout ça, ça fait partie, ces événements-là tragiques font partie de l'histoire officielle, et évidemment c'est des événements qu'on n'aime pas se remémorer. Et par exemple, les Britanniques, les Français ne connaissent pas forcément, n'ont pas forcément entendu parler de ces événements-là. Évidemment, personne n'aime s'entendre dire que son histoire et l'histoire de son peuple est sanglante. Personne n'aime s'entendre dire que ses ancêtres n'étaient pas aussi bienveillants qu'ils le laissent entendre. Et donc, si vous avez envie d'aborder avec quelqu'un des moments un peu sombres, un peu délicats de l'histoire, de son histoire à cette personne-là, eh bien, je crois que le meilleur moyen de le faire, c'est d'envelopper les faits qui sont douloureux ou difficiles à entendre, les envelopper d'une histoire, mais une histoire avec un petit H, pour donner une raison au lecteur de continuer à avancer dans sa lecture, de tourner les pages. De cette manière, vous avez beaucoup plus de chances que votre message soit entendu. C'est toujours mieux de raconter une histoire que de taper quelqu'un sur la tête et de lui dire « ton histoire, elle est complètement... c'est du grand n'importe quoi, elle est horrible. » En fait, il faut vraiment embarquer le lecteur avec vous. Et je crois que Gandhi, s'il est aussi apprécié des Britanniques, c'est parce qu'il avait réussi justement à leur plaire, à leur parler d'une certaine façon à ses oppresseurs. Il aurait pu les traiter comme ses ennemis qu'ils étaient, mais il a décidé de les traiter en amis. Donc, c'est ça. Moi, je crois que si je peux créer des personnages qui vont aborder, qui vont se trouver dans des contextes historiques difficiles, mais qui vont permettre au lecteur de s'identifier, c'est toujours une bonne chose. C'est toujours mieux que de juger le lecteur ou de le secouer trop fort. Et puis, en plus, de toute façon, dernier point, c'est vrai que l'histoire... c'est toujours controversé, chacun a sa propre version. Ce que je vais raconter va forcément être contredit par un autre. Mon choix de raconter ces faits historiques à travers la fiction, c'est aussi pour vendre plus.
Mais oui, vous êtes venu en jet privé. On arrive pour voler.
Je rentre en EasyJet par contre.
On est arrivé au bout du temps qui nous est imparti, donc on va devoir terminer. Juste vous dire deux choses. Vous allez pouvoir continuer avec Abir à la table, avec les livres, discuter avec lui, vous les faire signer. Et puis à 15h, il y a une autre rencontre qui va commencer avec Eva Balthazar et Guadalupe Nettel. Voilà. Vous remercier d'avoir passé ce moment avec nous, remercier le Festival Effraction pour l'accueil et cette discussion. Merci beaucoup Abir. Bon retour en EasyJet. Bonne visite au Louvre à tous les deux. Et puis on va continuer à vous lire.
Thank you so much. And if you want to come help us steal the Mona Lisa, we'll get half an hour, okay?
Oui, s'il y en a qui veulent nous aider à voler la Joconde avec mon fils, on se retrouve dans une demi-heure. Ah!
C'est une fausse,
je ne pourrais pas y arriver. Ah! Non,
c'est une fausse.
Oh,
c'est une fausse. Oh, dear. Je suis content, je voulais le faire aussi.